de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous projeter dans le futur, pour anticiper ce que nous faisons constamment sans même nous en rendre compte. Pourquoi l'anticipation, propriété fondamentale du vivant en général et de l'humain en particulier, est-elle au cœur même de nos vies et de chacune de nos actions? Comment ça marche? Comment notre cerveau prédit et parie sans cesse sur l'avenir? Voilà ce que nous allons chercher à comprendre avec nos invités, le neurophysiologiste Alain Berthoz et le philosophe Claude Debru qui viennent de diriger le premier ouvrage collectif sur ces fascinantes facultés humaines, anticipation et prédiction, aux éditions Odile Jacob. Autour de la question « Comment anticipons-nous ? » Bienvenue. Bonjour Alain Berthoz.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes neurophysiologiste et psychologue, professeur émérite au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Vos recherches, comme vos nombreux ouvrages sur la perception et l'action, ont fait date et ont modifié le regard que nous avons sur nous-mêmes et sur le fonctionnement de notre cerveau. On peut citer le sens du mouvement, la décision, la simplexité ou la vicariance. Pourquoi cette fois-ci avoir réuni une vingtaine de chercheurs, philosophes, physiologistes, neuropsychologues, mathématiciens et même des conseillers en entreprise pour réfléchir sur l'anticipation, Alain Berthoz?
Parce que, comme vous l'avez dit, l'anticipation est une propriété fondamentale du vivant. Et pour l'homme, pour la femme, anticiper est absolument indispensable dans toutes les activités, que ce soit le moindre geste que nous faisons, que ce soit pour en économie, que ce soit lorsqu'on veut prédire les conséquences d'une maladie éventuellement, ou la météo tout simplement. Et par conséquent, il est intéressant aujourd'hui d'essayer de comprendre comment le cerveau traite cette question, anticiper et prédire. Et c'est aussi pour cela que j'ai essayé de travailler avec Claude Debru, parce qu'on peut pas s'occuper qu'au cerveau sans discuter avec le philosophe.
Il est là, le philosophe. Bonjour Claude Debru.
Bonjour.
Vous êtes donc philosophe, correspondant de l'Académie des sciences et professeur de philosophie des sciences à l'École normale supérieure. Ce sont donc les sciences, en fait, la biologie et aujourd'hui les neurosciences qui nourrissent votre réflexion de philosophe. Sur cette question de l'anticipation, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi y venir ou y revenir aujourd'hui?
Pourquoi y revenir? D'abord, je voulais dire que cet ouvrage est à la fois un pari, une improvisation réussie,
à mon sens, oui.
Une improvisation réussie.
Une vingtaine de chercheurs.
Le fruit de, comment dire, d'une interaction tout de même de longue durée avec Alain Berthoz. Alors, pourquoi ce thème? Personnellement, je suis persuadé du fait que notre pensée est faite presque essentiellement de futur. Un certain nombre de philosophes majeurs l'ont reconnu. C'est aussi un problème pour la tradition philosophique de savoir en quoi consiste cette substance mentale qu'est la temporalité qui nous constitue, passé, présent, futur. Alors, tout cet ensemble de raisons ont fait que, ma foi, je me suis lancé dans ce pari avec Alain Berthoz, dont je me souviens qu'il a été l'un des conférenciers, l'un des maîtres les plus forts. J'ai suivi son enseignement au DEA de neurosciences et de sciences cognitives il y a déjà un certain nombre d'années.
Autour de la question...
C'était quelque chose.
C'était quelque chose, ben on va le savoir tout de suite, parce que ça va être quelque chose, je pense, cette émission, autour de la question pourquoi et comment anticipons-nous ? Première piste de réflexion sonore avec le mix forcément prédictif de Guillaume Ploquin.
Le cerveau se projette vers l'avenir, anticipe, c'est une des grandes fonctions de notre cerveau, et la création utilise cette capacité exploratoire et anticipatrice pour créer du nouveau.
Faut savoir anticiper, ne pas rester figé.
Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices très utiles pour les joueurs qui ont tendance à se faire surprendre par les trajectoires, les vitesses ou les directions de balle.
Je pensais au concept de simulation qui a surtout été utilisé pour décrire la réactivation d'expériences passées. donc je me demandais si maintenant on commençait à étendre cette idée de la simulation vers l'anticipation. On simule une activité passée pour essayer de prédire comment une situation un petit peu similaire va se terminer.
Afin d'aiguiser votre anticipation, votre déplacement doit toujours avoir lieu le plus tôt possible au moment de l'envoi de la balle.
Est-ce qu'on est vraiment sûr que l'on sait ce qui se passe dans notre propre tête? En fait, il y a des tas de choses qui se passent dans notre cerveau sans que nous en soyons conscients.
Le rêve va construire des mondes possibles, non qui se projettent dans le lendemain.
Une grande modalité d'action du cerveau, c'est quand même de prendre des décisions, décider de manger, décider de sortir ou décider un investissement.
L'anticipation dénote une intelligence.
Nous avons découvert que l'activité cérébrale montre quel choix la personne va faire 7 à 10 secondes avant la décision consciente.
Nous sommes deux. Nous avons un double de nous-mêmes. Nous avons dans le cerveau des structures dans lesquelles nous construisons une simulation de notre corps.
Il semblerait donc que notre cerveau programme à l'avance la décision et qu'au moment où soi-même on a le sentiment de décider, les jeux sont déjà faits.
Les jeux sont déjà faits quand on prend une décision tout le temps, Alain Berthoz.
Oui, si vous permettez, je voudrais dire que ce livre, qui est un travail qui a été fait...
Anticipation
et prédiction. C'est un travail qui a été fait dans le cadre d'un séminaire à la Fondation Hugo du Collège de France, qui est un endroit où nous réunissons des gens pour traiter de sujets sur lesquels on est encore en train de se poser des questions. C'est-à-dire, c'est la vocation du Collège de France, c'est la recherche en train de se faire. Et c'est pour ça que je crois que l'originalité du livre, c'est d'avoir rassemblé philosophes, biologistes, ingénieurs, il y a même un spécialiste du management et mathématiciens, pour essayer de cerner, si vous voulez, ce concept qu'on appelle l'anticipation. Je voulais dire une deuxième chose, c'est que je mène une espèce de croisade ou de guerre depuis des années contre tous les mots qui sont au singulier. L'identité, la mémoire, la perception, même la conscience.
Il faut dire les identités, les mémoires.
L'anticipation, car chacun de ces concepts, et c'est le cas du problème de l'anticipation et prédiction, en fait, chacun de ces concepts au singulier recèle une multitude de mécanismes, d'attitudes, de points de vue très différents. Et c'est pour ça qu'il fallait faire ce volume qui donne ces éclairages différents.
Les multiples facettes des anticipations et des prédictions, parce qu'au fond, notre cerveau, il prédit, il parie sans arrêt sur l'avenir.
Alors, notre cerveau a des mécanismes d'anticipation et de prédiction à de nombreux niveaux. Lorsqu'un lézard essaye d'attraper une mouche, s'il lance sa langue vers là où est la mouche, il l'attrapera jamais, elle sera partie. C'est exactement comme un Roland-Garros. Si le joueur qui attrape le service qui vient à 150 km à l'heure essaye d'attraper la balle là où elle est, il n'attrapera jamais. Par conséquent, toujours, toutes nos actions sont anticipatrices à un niveau très très basique, si vous voulez. Et nous avons une structure qui s'appelle le colliculus supérieur, qui est dans le cerveau et qui est une espèce de rétine dans notre cerveau qui a pour fonction justement de nous permettre d'aller attraper une pierre ou une balle très rapidement.
C'est une fonction presque de survie, en fait. Il faut prédire pour survivre.
C'est fondamental pour la survie, aller vite pour échapper à un prédateur ou capturer une proie. Et puis, au cours de l'évolution, étant donné que notre cerveau est devenu de plus en plus complexe, se sont bâties des structures qui ont permis d'aller faire de la prédiction de l'anticipation à des niveaux beaucoup plus élaborés, y compris aujourd'hui avec des ordinateurs qui permettent d'être des prothèses de notre cerveau avec des modèles probabilistes, etc. Donc, il faut regarder ça sous forme de mécanismes élaborer au cours de l'évolution des plus simples, les plus efficaces, nécessaires, jusqu'aux plus complexes.
Et parmi les plus simples et les plus nécessaires, on pourrait dire quoi? Que tout ce qui est vivant ou tout ce qui est en mouvement a besoin d'anticiper.
Dès qu'il y a mouvement et qu'il y a prédation, ou capture ou échapper à un prédateur, on assiste en biologie à des mécanismes anticipateurs.
Sauf que l'homme, Claude Debrune, a poussé ça encore plus loin et ne cesse de prédire sans arrêt. Pour sa curiosité, pour attirer sa curiosité aussi.
Certes, et c'est, ceci nous introduit au thème de l'imagination. Mais avant de rentrer dans ce thème de l'imagination, l'anticipation, comme le disait Alberto, a de très multiples facettes. Il y a le geste « Je suis fils de chasseur ». Je connais bien le fait que le chasseur doit anticiper la position de l'oiseau qu'il veut tuer.
Donc il y a le Donc, geste. Oui, pour tout geste, il faut une anticipation.
Le geste. Et puis, bon... vous parlez de l'homme, nos actions ordinaires. Dans nos actions ordinaires, non seulement il s'agit de gestes, mais il s'agit également d'interactions, de communication, etc., etc.
Donc il faut aussi anticiper ce que pense l'autre, ce que fait l'autre.
Lorsque nous sommes en train de parler, regarder, lorsque nous sommes en train de parler, il y a toutes sortes de processus qui se mettent en route et qui, c'est comme dans la musique. Je veux dire, je suis en train de taper une note sur le piano, je dois en taper une autre, je sais que je dois en taper une autre, et si cette autre est différente selon le cas, eh bien le son initial sera différent.
Donc on n'est jamais tout à fait dans le présent. Je vais vous poser une question tout de suite en musique, justement. Tu vois ce que je vois ? C'est Vanessa Paradis sur RFI.
Non mais tu vois ce que je vois, toute la vie devant toi. Viens voir comme elle est belle, je te fais la courte échelle. Regarde bien l'horizon, regarde comme il est long. Regarde comme il est clair, je suis sûre ça va te plaire. C'est facile, au signal, tu décolles du sol. C'est facile, mais pas mal, tu t'envoles dans le ciel. Non mais tu vois ce que je vois, et est-ce que tu le crois? Je te jure c'est bien réel, je te prête mes jumelles. J'en vois toutes les couleurs, on dirait des petites fleurs. Viens voir comme elles sont vives, oui, fais la tentative. C'est facile, au signal, tu décolles du sol. C'est facile, mais pas mal, tu t'envoles dans le sol. N'aie pas peur qu'elles se brûlent, tes ailes. N'aie pas peur qu'elles s'en mêlent, ma belle. Elles ne sont pas fragiles, tes ailes, ma belle. Le ciel est dégagé, c'est le moment, allez. Allez, prends ton élan, jamais ne redescends. Juste prends le vent, plus rien ne nous divise. Bientôt dans le courant, n'en est pas le vertige. Allez, c'est facile.
Vanessa Paradis sur RFI, tu vois ce que je vois autour de la question pourquoi et comment anticipons-nous, en compagnie du neurophysiologiste Alain Berthoz et du philosophe Claude Debreu, nous découvrons que notre cerveau prédit et parie sans cesse sur l'avenir. Mais dans quel sens ça marche? C'est précisément le sens de la question que vous pose le philosophe Pierre-Henri Tavoyot.
Une chose qui m'intéresserait sur la question de l'anticipation, c'est la manière dont les histoires que nous nous sommes racontées contribuent à constituer des espèces de structures a priori qui vont en quelque sorte produire les anticipations de l'avenir et peut-être le cas échéant produire l'avenir. C'est-à-dire que comment une structure narrative, pour le dire de manière technique, fonctionne pas simplement pour les histoires du passé mais peut-être aussi pour les histoires du demain et du futur.
Alain Berthoz, vous voulez répondre à cette question du philosophe Pierre-Henri Tavoyot ?
Oui, ben de façon très générale, moi je pense et j'ai dit que la mémoire c'est pas du tout pour se rappeler le passé, c'est essentiellement à mon avis un outil que l'évolution a construit pour prédire l'avenir.
La mémoire
c'est fait, c'est encore un des mécanismes qui a été fait pour permettre justement, en fonction des événements passés, de construire des scénarios du futur. Et ce qui est tout à fait remarquable aujourd'hui, c'est des recherches qui sont d'ailleurs mentionnées dans notre livre par Pascale Piolino, qui est une psychologue travaillant sur le vieillissement, sur la mémoire autobiographique, etc. Et nos collègues américains ou anglais, c'est l'idée qu'en réalité, il y a des mécanismes qui lient de façon très étroite les modules dans notre cerveau qui s'occupent de la mémoire et les modules dans notre cerveau qui permettent de prédire les scénarios. Et puis il y a des maladies aussi de cette liaison entre le passé et le futur. Par exemple, Armin Schneider, qui est un neurologue en Suisse, a travaillé sur les confabulateurs. Puisque notre collègue pose la question de la narration. Les confabulateurs, c'est des gens qui racontent un peu n'importe quoi, ou qui, par exemple, une dame est à l'hôpital et elle dit, ou un avocat est à l'hôpital, et il dit, oh, il faut que j'aille à mon rendez-vous. Oui, il avait un rendez-vous, mais c'était il y a un mois. Ce sont des gens qui ont des lésions d'une partie du cerveau qui s'appelle le cortex orbitofrontal, là-devant, au-dessus du nez, et qui ne peuvent pas prendre dans la mémoire du passé les événements pertinents pour guider leur action dans le futur. Hein.
Elle est brouillon, leur mémoire.
On a une espèce de corbeille formidable d'histoire de notre passé. Et là-dedans, pour pouvoir prédire, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir préparer notre action, il faut aller chercher ce qui est pertinent.
Chercher les bonnes choses.
Les choses utiles pour ça. Et ces gens-là ont des déficits, c'est une pathologie. Alors on les appelle les confabulateurs, en fait. Ce sont, dans les cas pathologiques, des gens qui ont une véritable maladie. Donc, mémoire du passé et anticipation du futur sont liés d'une façon extraordinaire. Alors, en plein milieu, ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a l'identité. C'est-à-dire, si on perçoit notre identité de maintenant comme étant cette espèce de passage permanent entre le passé et le futur... L'identité, c'est plus la photo d'identité. C'est un processus changeant qui dépend à chaque moment de cette mise en relation entre mémoire et futur.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que dans notre cerveau, enfin, ou nous-mêmes, on n'est jamais au présent, véritablement?
On est toujours quelque part entre le passé et le futur. En fonction, évidemment, de nos intentions, de notre histoire, du contexte.
Claude Devrue.
Oui, le présent est une abstraction, dans le fond. Ce qui est la réalité, c'est un flux.
C'est un flux,
c'est quelque
entre
chose qui se renouvelle
un passé
en permanence.
Qui prépare le futur, quoi.
Voilà. Alors, un passé qui prépare le futur.
Donc, il y a une
idée intéressante là-dedans et qui a été reprise, exprimée dans cet ouvrage. C'est que lorsque nous nous dirigeons vers le passé et lorsque nous nous dirigeons vers le futur, ce ne sont pas des mouvements équivalents, ce ne sont pas des mouvements symétriques. Ce qui l'emporte finalement, c'est le mouvement vers le futur. Et la mémoire, eh bien, oui, elle peut être...
C'est un réservoir, elle nous sert pour le futur.
C'est un réservoir, il y a beaucoup de types de mémoire, etc., etc. Donc tout ça est orienté en permanence.
Vers le futur, vers la construction du futur, parce que notre cerveau aussi, il construit perpétuellement histoires, des scénarios.
Si vous nous permettez de discuter avec...
Oui, allez-y.
Oui, le futur ne gagne pas toujours. C'est ce que les gens qu'on appelle les conservateurs, ils ont tendance éventuellement à être plutôt tournés vers le passé.
Absolument.
Donc ça dépend des gens, en fait, aussi.
Ça dépend des gens, de l'histoire, de l'histoire au sens, avec un grand H aussi, du moment où il y a des peuples... Même des peuples, pas simplement des individus. Il y a des peuples qui, à un moment donné, se trouvent avec des élans, enfin, la Révolution française, vers le futur, et au contraire, à d'autres moments, des peuples qui se tournent plutôt vers le passé.
C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, évidemment, commun de notre cerveau à tous les humains, mais il y a aussi un fonctionnement particulier, singulier, évidemment, à chaque être aussi.
Oui, c'est très paradoxal. Prenons le cas des conservateurs les plus fondamentalistes. Ces conservateurs les plus fondamentalistes, ça peut être, j'ai entendu ça récemment, des ingénieurs titulaires d'un PhD de très haut niveau. Vous avez des scientifiques très pointus qui peuvent être des partisans de l'astrologie dite scientifique. Donc, nous ne sommes pas une seule chose.
Nous sommes un mélange.
Nous sommes un mélange.
Autour de la question, comment anticipons-nous, nous qui sommes tous des mélanges, et pourquoi notre cerveau parie tout le temps et se projette dans le futur? On continue le voyage mental avec vous, Alain Berthoz, et vous, Claude Debrue, dans 3 minutes, juste après le flash d'info. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question comment anticipons-nous et pourquoi notre cerveau prédit et parie toujours sur l'avenir. Nous sommes en compagnie du neurophysiologiste Alain Berthoz et du philosophe Claude Debrue qui viennent de diriger aux éditions Odile Jacob un ouvrage collectif intitulé Anticipation et prédiction du geste au voyage mental entre neurosciences et philosophie, ou pour reprendre l'expression du regretté Pierre Buzère auquel vous avez d'ailleurs dédié cet ouvrage, nous voilà bien dans la neurophilosophie.
Neurophilosophie, qu'est-ce que nous entendons par là? Eh bien, c'est essentiellement le fait que lorsque nous sommes dans le cerveau, nous sommes à la fois dans un système scientifiquement étudiable qui est le cerveau, et d'autre part quelque chose qui l'habite, on peut discuter, qui est l'esprit. Si bien que nous sommes à la limite entre le neuro, qui est la science, et l'esprit, qui est la philosophie. D'où le terme de neurophilosophie, qui est évidemment un néologisme dont on peut s'excuser malgré tout, mais enfin, il est utile.
Le professeur Pierre Buzère, que nous avions reçu le 20 juin 2013, quelques mois avant sa mort, vous lui dédiez d'ailleurs cet ouvrage. On peut dire de neurophilosophie, le terme vous convient, Alain Berthoz?
Écoutez, aujourd'hui, on parle de neurophilosophie, de neuroéconomie, de neuroesthétique, bientôt de neurosociologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'un certain nombre des fonctions cognitives les plus élevées du cerveau humain, finalement, qui ont été pendant longtemps, et en grande partie en France aussi, en raison de principes théoriques, séparées, on pourrait dire, du cerveau, un petit peu comme la psychanalyse a essayé de distinguer en psychiatrie le cerveau et le fonctionnement général, il y a eu un fossé entre ces fonctions cognitives reconnues et l'étude de la biologie. Aujourd'hui, eh bien, il y a une coopération entre les biologistes et les gens des sciences humaines et sociales qui est extrêmement intéressante, et je crois que c'est ça que représente l'adjonction du mot neuro à ces disciplines traditionnelles. Il faut pas voir ça comme une domination possible des neurosciences sur les disciplines, mais une véritable, ce que j'appelle fertilisation croisée des deux approches.
Vous-même, d'ailleurs, Alain Berthoz, vous travaillez beaucoup dans vos recherches sur le corps, parce que c'est indissociable du cerveau, et pour l'anticipation, le corps est fondamental, et le corps ne cesse d'anticiper. Vous avez travaillé avec des sportifs, il y a des chapitres aussi sur le sport aussi, quand on attrape une balle, il faut bien anticiper.
Oui, enfin moi d'abord j'ai travaillé depuis toujours avec les philosophes. D'abord j'ai passé le bac philo, après le bac mathélème, et j'ai écrit, comme vous savez aussi, un livre avec le philosophe Jean-Luc Petit. Il s'appelle Physiologie de l'action et phénoménologie. Parce que on a trouvé là des terrains de discussion importants autour des théories, en particulier du CERL. Effectivement, moi, j'essaye de non seulement de coopérer avec d'éminents philosophes comme Claude Debrue, mais vraiment de faire un travail. En ce qui concerne le corps, oui, j'appartiens moi à un mouvement qui repart de l'acte. C'est-à-dire, je vous rappelle ce qu'avait dit Faust. Faust disait « Au début était le verbe », et puis il se reprend, il dit « Au début était la force », et enfin il dit « Non, au début était l'acte ». L'acte, c'est le corps en acte.
C'est l'action.
Damasio nous a aussi rappelé que l'émotion, le ressenti est à l'origine du sentiment. Et en matière de sport, c'est la même chose. Dans le travail avec les sportifs, nous nous sommes trouvés des terrains extrêmement proches, puisque dans pratiquement tous les sports, les entraîneurs eux-mêmes passent leur temps à dire « il faut anticiper, anticiper ». On ne peut pas faire autrement lorsqu'on est au bas. basket, au rugby, dans tous les jeux sportifs, que d'anticiper ce que l'autre va faire. Car on n'en a pas encore parlé, mais dans l'anticipation, il n'y a pas seulement l'individu, mais il y a les relations sociales. Nous passons notre temps à essayer de deviner, d'anticiper, comme moi j'essaie en ce moment d'anticiper ce que nos auditeurs et vos auditeurs vont penser de ce que nous disons.
Nous sommes perpétuellement à la fois dans le corps et dans l'esprit, dans nos têtes, en quoi, en interaction et en train d'anticiper ce que l'autre peut penser, ce que l'autre va dire, ce que l'autre imagine aussi, Claude Debrus.
Oui, alors effectivement, c'est tout à fait le cas. Mais je me pose une question. Permettez-moi de revenir un petit peu en arrière. Mmh. Comment anticipons-nous ? Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans notre cerveau, je me mets un petit peu à la place du neurophysiologiste. Ce sont des processus extrêmement fins, extrêmement rapides, qui sont grosso modo de l'ordre de la milliseconde.
C'est extrêmement rapide.
Oui. Il y a beaucoup plus rapide que ça, bien entendu, y compris dans le cerveau. Mais l'empan, la dimension temporelle de ce que nous pouvons anticiper est évidemment beaucoup plus large. Alors comment faisons-nous ? C'est extraordinaire comme question.
Oui.
C'est extraordinaire.
Comment est-ce qu'on fait aussi vite que ça pour être tout le temps en train de se projeter ?
Comment est-ce qu'on peut relier les siècles
comment est-ce qu'on
avec
peut
les
relier, voilà, comment est-ce pour, alors,
la milliseconde,
on a évoqué l'imagination. L'anticipation, c'est quand même quelque chose de très, comment dire, c'est un concept assez dur. Ça consiste à dire que lorsque nous faisons ceci ou cela, au moment où nous l'initions, nous avons déjà tout un programme qui est en cours de réalisation, qui est déjà peut-être déjà un petit peu activé, simulé, etc., etc. Nous l'avons déjà dit. Mais lorsque nous allons sur des échelles de temps beaucoup plus grandes, nous avons d'autres processus mentaux qui sont à l'œuvre. L'imagination en étant extraordinaire, et en particulier l'imagination scientifique, bien entendu.
Et qui nous permet de nous projeter beaucoup plus loin
beaucoup
que ça,
plus loin.
Dans le passé comme dans le futur, d'ailleurs.
Dans le passé, certes, mais dans le futur. Et de rechef, je reviens sur cette idée fondamentale qui ressort bien de ce livre, c'est que il y a quand même une prédominance de l'aspect anticipateur de notre pensée, de nos actions, etc., sur l'aspect passéiste, bien entendu.
On se projette beaucoup plus dans le futur que dans le passé, c'est ça que vous dites.
Il y a des sociétés terriblement conservatrices, c'est comme ça. Nos sociétés occidentales, rationalistes, etc., etc., elles sont vraiment orientées vers l'innovation plus que vers la conservation.
Mais c'est nouveau, ça, où au fond les hommes et les humains sont toujours projetés quand même dans le futur.
Oui, certainement, mais certains d'entre eux ont des règles de vie extrêmement strictes. Mais je crains que nous soyons en train de déborder.
On va revenir aux
considérations de psychologie sociale.
Dans le livre, pour continuer ce que dit Claude Debrus, il y a un chapitre de Étienne Quéclin, qui est le directeur du laboratoire de neurosciences cognitives à l'École normale, et qui travaille sur le cortex préfrontal, puisqu'une partie, une des parties fondamentales de notre cerveau pour la prédiction du futur, c'est cette partie qui est en avant, là, dans le front, qu'on appelle le cortex préfrontal. Et il a proposé un modèle intéressant, qui avait dit, au fond, nous ne pouvons pas imaginer 36 scénarios possibles pour le futur. Et il propose qu'on peut en imaginer au maximum à peu près 3. C'est-à-dire que on peut pas en imaginer 10 types d'actions. Mais il y aurait donc à la fois la capacité par notre cerveau, et en particulier cette partie du cortex préfrontal, d'imaginer plusieurs scénarios possibles, c'est important.
En même temps,
c'est important. Mais pas 36, voilà. Et donc il propose qu'on peut, c'est un chiffre magique un peu, mais là il y a des données scientifiques importantes qui suggèrent...
Et avant de prendre une décision, par exemple, on pourrait peut-être imaginer trois possibilités,
voilà,
trois...
Voilà, alors je pense qu'il y a des gens plus ou moins doués,
possibles.
Évidemment, qui vont en imaginer plus que d'autres, ou de qualité, ou comme le dit Claude Debrus, avec des empans temporels plus ou moins longs.
Autour de la question, comment anticipons-nous et pourquoi notre cerveau prédit et parie tout le temps, plutôt sur l'avenir donc que sur le passé, je vous propose un nouvel éclairage, celui de la neuropsychologue Sylvie Chocron, qui est responsable du laboratoire de psychologie de la perception du CNRS.
Ce qui est très important, c'est d'imaginer à quel point on est restreint quand on essaye de modéliser une fonction, de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Par exemple, les gens s'intéressent beaucoup actuellement à tous les projets qu'il y a d'intelligence artificielle, de modélisation du cerveau. Et il ne faut pas oublier quand on construit un objet intelligent, ou quand on essaye de modéliser l'intelligence du cerveau, on est contraint par nos propres connaissances. sur le cerveau ou sur ce qu'on imagine de comment fonctionne le cerveau. Et je pense que plus on va être capable d'élargir nos connaissances, c'est-à-dire non pas d'imaginer comment la plus grande partie des gens fonctionnent, mais plutôt d'aller regarder des cas particuliers de personnes qui fonctionnent différemment, qui ont des mémoires différentes, des trop grandes mémoires ou des trop petites mémoires, ou des handicaps divers et variés, ou qui vivent dans des cultures différentes. Donc plus on sera capable d'aller regarder des modèles différents de fonctionnement, plus on sera capable d'élargir nos connaissances dans le domaine de la résolution de problèmes. Comment est-ce qu'on s'y prend pour s'adapter? Dans, si on nous projette dans une culture complètement différente ou quand on a un handicap quelconque. Et donc cette nouvelle façon de voir le fonctionnement cérébral pourrait enrichir notre façon de concevoir la façon dont un cerveau est censé fonctionner ou résoudre un problème ou la façon dont nous utilisons nos connaissances.
Nous sommes tous des cas particuliers, vous l'avez dit, Alain Berthaud, c'est en étudiant des cas particuliers ou des dysfonctionnements qu'on peut mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau.
Alors moi je suis très content que Sylvie Chocron, qui est une excellente neuropsychologue et psychologue, ait fait l'apologie de la diversité. En effet, nous sortons d'un siècle où a dominé une tentative d'essayer de trouver l'homme moyen, et en particulier d'ailleurs l'homme occidental moyen, alors que notre façon de vivre et d'anticiper l'avenir est très différente. Moi j'ai eu un étudiant japonais qui m'a dit pour nous au Japon, la vie est une étincelle, alors que pour nous, en Occident, elle est longue durée. Donc je suis très content et j'ai fait ce livre qui s'appelle, qui a pour titre La Vicariance, précisément pour essayer de remettre au goût du jour et surtout de stimuler des recherches qui ont été un peu abandonnées sur la diversité. Le fait que on peut même faire des choses, la même chose, avec des processus cérébraux complètement différents, suivant qu'on est un homme, une femme, un jeune, un vieux, suivant notre culture. Et toute cette dimension de la diversité des stratégies cognitives possibles pour résoudre le même problème, pour anticiper l'avenir, a été un peu oublié parce qu'on a essayé de normer. On est encore, d'ailleurs, on le sent dans le travail, dans les domaines du travail, du management, on essaye d'imposer des règles de fonctionnement.
Tout le monde doit fonctionner comme ça, décider comme ça.
Au lieu de profiter de la richesse extraordinaire qu'a notre cerveau, de trouver des solutions complètement différentes pour faire la même chose.
De s'adapter, au fond, c'est ça, de s'adapter
Non, pas de s'adapter, d'inventer. En neurologie, par exemple, aujourd'hui, si vous avez une partie de votre cerveau qui est lésée, eh bien, on essaye souvent de la rééduquer par une méthode, etc. Alors qu'en réalité, ce qui est important, et c'est ce que nos collègues appellent maintenant la rémédiation et pas seulement la réhabilitation, il faut donner au cerveau le moyen d'éventuellement, avec ses ressources multiples, de remplir la même fonction avec des systèmes très différents. C'est une façon complètement différente aussi d'enseigner. Aujourd'hui, en Italie, mes bouquins, en particulier La Vicariance, sont pris par des universités pour refonder la didactique. Justement parce qu'au lieu de faire une didactique normée, avec des solutions toutes faites, on va essayer de redonner à chaque étudiant, en quelque sorte, le moyen d'aller trouver son chemin mental à lui pour arriver à résoudre un problème et anticiper l'avenir.
Ça demande un effort, ça, quand même. Et justement, ça veut dire aussi que chacun, on anticipe de manière différente.
Oui, mais bien sûr, nous sommes tous différents, et c'est ça qu'il faut cultiver, et pas seulement là-dedans. Et donc, le problème général, et l'avis du philosophe est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a une opposition entre l'universalité, le fait, c'est
nous
pareil dans une démocratie, le fait qu'on doit avoir des normes, et la spécificité de chaque individu. Le problème, c'est que c'est ni l'un ni l'autre, c'est de la confrontation des deux que naît la créativité.
Vous êtes d'accord? Le philosophe que vous êtes, Claude Debré, est d'accord avec ça? Il faut concilier finalement le fait qu'on soit tous pareils et tous différents?
Je pense qu'il y a eu un chemin intellectuel considérable qui a été fait, auquel fait allusion Alain Berthaus. C'est-à-dire que la pensée philosophique des 18e, 19e siècle et aussi 20e siècle, il faut le reconnaître, est essentiellement fondée sur l'idée d'universalisation, d'universalité. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et c'est totalement nouveau. Je veux dire, ce que les sciences de la vie ont apporté dans les 50 dernières années, c'est précisément cette perception de la différence. qui est une perception extraordinairement utile, parce qu'on ne va pas pouvoir traiter tout le monde de la même façon, ce qui a des conséquences considérables en matière d'éducation, en matière d'art, en matière de tout ce que vous voudrez, surtout en matière d'éducation et aussi en matière de médecine.
C'est qu'on est, on est tous des êtres humains, mais on fonctionne tous en même temps à notre manière particulière, singulière.
Oui, nous sommes tous des êtres humains, certes. Je crois que le plus important est c'est d'établir des ponts toujours plus nombreux entre les sciences de la nature, principalement les neurosciences, et les sciences humaines et sociales. Parce que ces ponts, ces connaissances nouvelles que cela permet d'obtenir, sont d'une extraordinaire utilité sociale. Elles nous font voir les choses d'une manière totalement différente de celle que nous avions l'habitude de mettre en œuvre dans un passé, même récent. Ce sont des choses nouvelles. Donc, je suis totalement d'accord sur ce point, bien entendu.
Autour de la question, comment anticipons-nous, donc tous ensemble et tous aussi chacun à notre manière, on écoute Jean-Louis Aubert sur RFI. Demain sera parfait.
Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en paix. Sur les décombres de notre monde, je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles, les soleils-là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Imaginaire. Je veux danser, je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors ça sent fort, ils prennent en charge la mort. Laisse-les donc à leur sort. Je veux chanter, je veux te faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. Je veux chanter et je veux te faire mentir. Demain je m'y remets. Chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te paradiner. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Demain sera parfait.
Demain sera parfait. C'est Jean-Louis Aubert qui le dit et qui le chante sur RFI. Autour de la question, comment anticipons-nous, en compagnie du neurophysiologiste Alain Berthaus et du philosophe Claude Debru, et tout de suite l'éclairage en forme de questions du physicien Étienne Klein, qui était hier notre invité.
Alors, si j'ai bien compris les travaux d'Alain Berthaus, l'anticipation et la prédiction sont des parts importantes de l'activité cérébrale des êtres humains. Et est-ce que ça ne nous met pas aujourd'hui en porte-à-faux, au sens où le futur, c'est comme collectivement absenté du présent, c'est-à-dire que notre futur n'est pas configuré. Il l'était dans les années 70, quand j'étais étudiant ou adolescent, avec mes frères et sœurs, nous recevions des magazines comme Tintin, Pilote et d'autres, qui nous parlaient de l'an 2000. Donc le futur nous était présenté, il était représenté, mis dans notre présent, de sorte qu'on pouvait tracer des chemins individuels entre l'époque où nous étions et celle qui nous était présentée pour le futur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que 2050 est une période qui n'est pas vraiment configurée, pas vraiment décrite. On répugne d'ailleurs à la représenter, puisque quand on le fait, c'est plutôt sous l'égide de la catastrophe. Et donc, comment est-ce que notre cerveau peut s'adapter à ce besoin qu'il a de se projeter dans le futur et l'absence de représentation d'un futur collectif pas vraiment décrit, qui nous est présenté.
Sans futur représenté ou représentable collectivement, comment on fait pour se projeter? Que pouvez-vous répondre à Étienne Klein, à Alain Berthoz?
Une formule. Moi, on est soit optimiste, soit pessimiste. Moi, ma formule que je propose, c'est le futur sera ce que l'on fera de lui. Je suis optimiste et en particulier pour les jeunes d'aujourd'hui, il est important de restituer ce message. On peut être pessimiste, on peut dire, voyez, aux élections britanniques, les sondages se sont trompés, on peut dire la catastrophe du réchauffement climatique. C'est une attitude. Moi, je pense qu'il faut prendre l'attitude contraire en disant, nous sommes des poussières d'étoiles, comme dit Hubert Reeves, soumis à des contraintes fabuleuses. Mais finalement, toutes les espèces animales et humaines, animales en particulier, ont été soumises à ces contraintes. On sait qu'il y a eu dans l'évolution, des millions d'années d'évolution, des périodes de disparition brutale d'espèces, et nous sommes peut-être dans une période comme ça, mais il faut tester aujourd'hui la capacité du cerveau humain, et pas seulement de l'individu, mais collectivement, justement, de trouver de nouvelles solutions, de chercher comment se redéfinir. Et moi, je trouve que c'est un défi absolument magnifique pour les jeunes aujourd'hui. Donc, je suis plutôt un émerveillé. Moi, vous savez, dans ma famille, on m'assimile au ravi des crèches provençales. Le ravi, c'était l'idiot du village, mais en même temps, c'était celui qui était émerveillé.
Parce qu'on pourra faire ou par ce que l'on fera.
Oui, je pense qu'il faut donner ce message aux jeunes aujourd'hui que beaucoup de choses sont possibles, voilà. Plutôt qu'un message catastrophique.
Mais en même temps, Claude Debru, aujourd'hui, on a du mal quand même à se représenter le futur, alors qu'on vient de parler dans cette émission du fait que nous fonctionnons en nous projetant dans le futur.
Oui, effectivement, je pense que Étienne Klein a, pour une part, raison. À savoir que, il y a 40-50 ans, nos chemins étaient quand même tout tracés.
Ou on les croyait tout tracés.
Oui. Nous étions sur des voies qui étaient tracées d'avance. Et puis, les choses ont évidemment évolué. Elles sont devenues beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, nous sommes face à des choix. Ça dépend de nous.
Oui.
Or, le fait que ça dépende de nous, c'est aussi l'occasion de nous interroger sur qui nous sommes. Et lorsque nous nous interrogeons sur qui nous sommes, sur qui je suis authenté actuellement, je dois dire qu'il y a toute une part de choses qui est tout de même presque... Les choses sont ce qu'elles sont. Je suis déterminé, largement déterminé. Et je dois faire un effort de réflexion pour me sortir de cette détermination qui est aussi, en partie, plus ou moins inconsciente. Nos réactions sont ce qu'elles sont. Nous sommes constitués d'une certaine façon.
Nous sommes aussi comme ça, mais on a quand même le choix. C'est...
À l'intérieur de cette constitution, nous avons cette espèce de capacité de nous modifier en permanence, qui est quand même extraordinaire. Et grâce à cette capacité de nous modifier en permanence, d'imaginer un petit peu plus, nous pouvons créer des choix. Nous ne sommes pas obligés d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. Et la manière dont nous allons choisir ceci ou cela, eh ben, ça sera...
C'est à nous de le faire, mais avec notre imagination aussi, notre manière de nous projeter, de construire autre chose, on peut construire autre chose.
On peut construire autre chose, absolument. Oui, je pense que nous avons aujourd'hui un univers de possibles qui, grâce à la science, il faut le dire, grâce à la science et à la technologie mêlée, sont beaucoup plus considérables que ceux que nous avions il y a quelques dizaines d'années.
Et
nous avons une connaissance.
Oui, c'est ça, en comprenant mieux, voilà, comment on fonctionne.
Nous comprenons beaucoup mieux comment nous fonctionnons.
Comment on fonctionne, comment on se projette tout le temps, comment on se construit des histoires tout le temps. Mais ça peut aider à aller de l'avant. On va terminer là-dessus, peut-être, Alain Berthoz.
Oui, on connaît un peu mieux ce que nous sommes, comme dit Claude Debru, et aussi nous commençons à connaître un peu mieux comment fonctionne l'univers, les planètes sur lesquelles... Et donc, il faut réconcilier ces deux choses. Nous avons au Collège de France actuellement un groupe de travail qui réfléchit avec des paléontologues, des philosophes, des architectes sur les rapports entre l'homme et la nature, et il est évident aujourd'hui qu'il faut aussi complètement resituer, comme l'avaient fait les anciens et comme le font d'ailleurs les philosophies en Asie, reconsidérer les rapports entre la nature, le fait que notre cerveau est dans un corps et que le corps est dans la nature et tout ça. Et bien, c'est un merveilleux programme pour réfléchir tous ensemble.
Et à réfléchir justement tous ensemble. Merci infiniment à tous les deux d'être venus en direct pour nous aider à anticiper autre chose pour nous tous. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez donc dirigé, Alain Berthaus et Claude Debru, aux éditions Odile Jacob, Anticipation et prédiction du geste au voyage mental. On va terminer sur un petit voyage musical avec Vieux Farka Touré sur RFI. Confrères et consoeurs de la presse scientifique autour de la question comment la science infuse. Nous ferons le point sur les recherches et les découvertes sur Terre, sur Mer et dans l'espace avec Guillaume Ploquin à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert et continuez vos voyages mentaux. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.